Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Werner Herzog et William Friedkin, deux cinéastes dans la jungle, histoire de tournage catastrophique avec Laura Freducci, Samuel Blumenfeld et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. On connaît des cinéastes malchanceux, Terry Gilliam en est le parangon. On connaît des tournages maudits où des forces aussi occultes que mystérieuses semblent se liguer pour empêcher un film de venir au jour jusqu'à provoquer la mort de son réalisateur. C'est ce qui était arrivé à Murnau pour sa dernière œuvre Tabou. On en avait parlé ici en début de saison. Mais qu'est-ce qui pousse un cinéaste à se jeter de lui-même dans la gueule du loup et à y rester? Quelle obstination, quelle démesure peut le pousser dans sa quête de l'image limite d'une vérité extatique à risquer non seulement sa vie mais celle de ses acteurs et de toute son équipe dans les lieux les plus inhospitaliers du globe et les moins adaptés à un tournage de cinéma. Celui d'Apocalypse Now est légendaire, il a failli emporter la raison de Francis Ford Coppola. C'est à deux autres cinéastes tout aussi mythiques que nous nous intéresserons aujourd'hui. Ils ont pour point commun, selon leurs légendes respectives, de ne jamais se séparer d'une arme à feu quand ils tournent et d'avoir failli se perdre corps et âme dans la jungle. Werner Herzog, époque Aguirre, La colère de Dieu et Fitzcarraldo, et William Friedkin, dont le meilleur film, son préféré, Sorcereur, d'abord connu en France sous le titre Le convoi de la peur, sonna par ses dépassements, son surcoût et surtout son échec en salle le glas de sa carrière hollywoodienne. Le premier a une vie tellement romanesque qu'il est devenu pour de bon un personnage de roman sous la plume de la critique Laura Freducci, notre première invitée. Werner et les catastrophes naturelles, une biographie largement fantasmée. Le second a longuement raconté, et ses collaborateurs avec lui, l'histoire de son film maudit à un autre critique, Samuel Blumenfeld. Il en a tiré un passionnant et richement illustré Sorcereur sur le toit du monde. Il est également notre invité. En fin d'émission, Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm, nous racontera une aventure pas moins étrange, celle du film Simone Barbès ou La Vertu de Marie-Claude Treillou, qui ressort en salle le 13 juin. Bonjour Laura Freducci.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on entend là?
Alors c'est un extrait de Les Nains aussi, on commençait petit. Un des premiers films de Werner Herzog. Et parmi un de ses tournages qui a été très compliqué aussi, dont l'histoire est un peu moins connue, mais aussi très intéressante.
Alors c'est le début aussi de la légende Herzog, le film est présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, je crois que c'est en 1970, et il commence déjà à y avoir des polémiques sur la méthode Herzog. Alors on lui reproche moins de faire souffrir ses comédiens, les nains du film, que de torturer des animaux, ce qui est vraiment, comme d'habitude, beaucoup plus grave. C'est ce que vous appelez le doppelganger de Herzog, c'est-à-dire qu'il y a Herzog tel qu'il se perçoit d'une certaine manière, et Herzog tel qu'il est perçu à l'extérieur.
Oui, en fait, à partir de ce film, on assiste à un espèce de multi-dédoublement en fait, du personnage Herzog, où il va y avoir toutes sortes d'interprétations de qui il est, de ses valeurs, de ce qu'il représente. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai insisté sur le fait qu'on le critiquait pour avoir tourné avec des animaux de façon vraiment très peu réglementaire. Mais il était aussi... On posait aussi la question de quel usage il fait, en fait, des infirmités, des handicaps qui met en scène, et est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il les utilise à ses propres fins, d'une façon plus ou moins grotesque, quelle est la part de respect qu'il a pour les sujets qu'il traite, et donc ça c'était déjà problématisé à partir de ce film.
Oui, vous le dites, dans ces films avec des personnes qui ont des infirmités, des handicaps, il a fait plusieurs documentaires aussi sur cette question. Vous dites qu'il est dans l'empathie, mais sans être dans la commisération. C'est-à-dire qu'il a, cette frontalité à son sujet, mais déjà aussi donc cette recherche de l'image limite d'une image qui est une expérience du monde. Vous racontez, puisque c'est vraiment le roman de Werner, vous racontez son enfance, ses découvertes, et il est déjà toujours à la limite. C'est le petit garçon qui, dans les montagnes bavaroises, quitte à aller se promener quelque part, autant y aller là où ça risque de déclencher une avalanche, par exemple.
Oui, c'est ça. C'est aller chercher à repousser la frontière. Et son rapport au handicap et aux infirmités, c'est aussi chercher mais quel rapport au monde on a quand on n'a pas de bras, par exemple, comme il a fait un documentaire sur des enfants... dont les mères avaient pris un médicament qui...
La thalidomide dans les années 50.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça construit comme rapport au monde ? Mais il a un côté toujours à essayer d'y mettre quelque chose de grinçant, en fait, quelque chose de dérangeant qui peut mettre un petit peu mal à l'aise dans la façon qu'on a de se représenter ce type de sujet. Et par exemple, il disait qu'il adorerait montrer... ce genre des enfants avec ce type de handicap qui commettent des méfaits, qui volent, qui sont qui sortent en fait de l'image habituelle qu'on s'en fait.
Mais c'est sans doute ce qui est le plus dérangeant dans Les Nains aussi ont commencé petit. Je ne sais pas quel souvenir vous en avez, Samuel Blumenfeld, mais que c'est pas le nain sympathique, c'est le nain grinçant, c'est le nain punk, c'est le nain. Vous l'écrivez d'ailleurs à Laura Freducci, ça semble dire en particulier une chose: allez tous vous faire foutre.
Oui, alors. Il y avait d'abord le titre du film, de toute façon, qui est assez extraordinaire, qui est tout un programme. Et puis il y avait aussi le tabou lié au sujet. Le tabou lié au sujet, c'est que, si vous voulez, le nain était éventuellement, on pouvait avoir un personnage de nain dans certains films, mais là, bon, tout un film, on était dans, enfin, je veux dire, de par le projet, de par ce titre, on était déjà ailleurs.
Alors ce que vous racontez, vous avez évoqué, Laura Freducci, ce tournage un peu compliqué, il fait déjà prendre des risques insensés à ses comédiens, mais Werner Herzog paye de sa personne, c'est-à-dire qu'il va faire une promesse: si jamais tout le monde s'en sort, voilà ce que je vais faire.
Oui, alors c'est une des anecdotes les plus drôles à propos de ce tournage, et puis c'est aussi une façon de renverser ses critiques, d'anticiper les critiques qu'on peut faire, c'est-à-dire d'instrumentaliser ses comédiens, de les utiliser, de leur faire prendre des risques insensé. Et donc lui, il a un peu retourné ça en disant si tout le monde s'en sort, c'est vous qui allez me filmer, pendant que moi je ferai une cascade incroyable qui consiste à se jeter dans un champ de cactus, ce qui a d'ailleurs été beaucoup plus douloureux que ce qu'il s'imaginait.
Et donc oui, il l'a fait, vous racontez comment il a encore aujourd'hui une épine de cactus calcifiée derrière le genou.
Ça, il faudra lui demander confirmation.
Ça, c'est encore la légende. Mais alors, le Werner Herzog que vous décrivez dans ses premières années, c'est un Werner Herzog qui est un marcheur. Déjà, on connaît sa marche légendaire pour sauver son ami Lotte Eisner, la grande historienne du cinéma allemand d'avant le nazisme, mais vous le montrez déjà très jeune, faisant le tour des frontières de l'Allemagne, allant en Albanie, allant en Afrique, chercher quoi ? Chercher des images alors qu'il n'a même pas encore de caméra ?
Oui, je pense que le besoin de marcher et d'explorer les territoires méconnus précède en fait la vocation du cinéaste. Alors, il a raconté différentes légendes de l'émergence, de sa vocation, etc. Donc, bon, on en fait un peu ce qu'on veut. Mais ce qui est premier, je pense, c'est d'aller se mettre au contact de situations extrêmes. Et le point commun entre le Congo et l'Albanie, qui sont ses premiers voyages initiatiques, c'est que ce sont des territoires inaccessibles. L'Albanie, qui était un pays absolument fermé à l'époque, une tache blanche sur la carte en Europe. Le Congo, qui en 1960 devenait absolument inaccessible à cause de l'effondrement total pré-guerre civile. Et donc on le voit essayer de venir parcourir ces territoires interdits.
Samuel Blumenfeld.
Je pense qu'il y a aussi une chose très importante qui est consubstantielle au cinéma. Le cinéma des débuts, le cinéma des frères Lumière, consiste à envoyer des émissaires dans le monde entier pour filmer ce monde et donc apporter le monde au monde. Donc le cinéma en fait est lié à ce désir justement d'explorer des territoires, de filmer ce qui n'a encore jamais été filmé. Or, ce qui se passe dans les années 70, il ne faut pas oublier qu'on est encore, c'est encore très proche de l'époque des nouvelles vagues. L'époque des nouvelles vagues, nouvelles vagues européennes, principalement. Cette époque-là marque l'apparition de nouvelles caméras plus légères, où justement les tournages en extérieur se généralisent. Et de par justement ces progrès technologiques, c'est plus facile de filmer dehors. Et donc, Herzog, l'un des premiers, je veux dire dans les années 70, parce que vraiment c'était un pionnier, Herzog se dit, consciemment ou inconsciemment, je poursuis d'une certaine manière le projet des Frères Lumière, c'est qu'en l'occurrence, être cinéaste, c'est aller là où personne n'est allé, du moins avec une caméra.
Mmh. Avec une caméra et avec aussi beaucoup de monde parfois.
Ich bin der große Verräter. Es darf keinen größeren geben. Wer auch nur wagt, ganz davonlaufen zu denken, wird in 198 Teile zerstückelt. Und auf ihn wird dann so lange herumgetrampelt, bis man die Wände mit ihm streichen kann. Wer auch nur ein Korn Mais zu viel isst und einen Tropfen Wasser zu viel trinkt, der wird dafür eingesperrt für 155 Jahre. Wenn ich agiere will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen die Vögel tot von den Bäumen herunter. Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Wer aber mir und dem Fluss folgt, wird unerhörten Reichtum erlangen.
Discours de motivation, on dira, d'un conquistador à ses troupes. Le grand traître, c'est moi, qu'il n'y en ait pas d'autre. Quiconque projette de déserter sera découpé en 158 morceaux. Ils seront piétinés jusqu'à ce qu'on puisse peindre les murs avec. 155 ans de prison pour un grain de maïs, une goutte d'eau, 6 mois à guire. Je veux que les oiseaux meurent sur les arbres. Ils mourront sur les arbres. Je suis la colère de Dieu. À ma vue, la terre tremblera. Qui me suivra sera couvert de richesses inouïes. C'est évidemment Aguirre, la colère de Dieu, Klaus Kinski dans le rôle principal. Alors, nouvel événement sur la croisette à Cannes, c'est en 1972 à la quinzaine des réalisateurs. Électrochoc, grand succès dans les salles françaises. D'ailleurs, Werner Herzog sera reconnu d'abord en France, bien avant de l'être en Allemagne. Et Werner Herzog, c'est le visionnaire tel que vous le décrivez dans votre livre, Laura Freducci, c'est pas celui qui voit l'avenir, mais c'est celui qui est assailli de visions qu'il faut absolument, quoi qu'il en coûte, réaliser. Et Aguirre part d'une vision particulière, celle d'une troupe de soldats qui descend un glacier suivi par des chevaux, des porcs et toute une procession.
Oui, en fait, c'était l'image première qu'il avait eue, qui avait convaincu aussi Kinski de faire
Klaus Kinski
de faire ce, ce film avec lui et qu'il a dû finalement laisser cette image-là qu'il a dû laisser tomber parce que il imaginait voilà des centaines d'hommes suivis de centaines de porcs sur ce glacier qui descendrait petit à petit. Bon, c'est devenu une image tout aussi marquante en fait, cette file de conquistadors et d'indiens qui descendent du Machu Picchu pour aller s'enfoncer progressivement dans la jungle et venir se déliter au contact de cette nature absolument sauvage et inhospitalière. Mais voilà, c'était l'image, l'image de départ.
Alors si Herzog avait tourné à l'époque de Griffith, il avait été un de ses grands réalisateurs, il aurait pu mobiliser tout autant de figurants, mais on aurait reconstitué une jungle en studio, quoi qu'il en coûte. C'est ce que vous disiez, Samuel Blumenfeld, tout à l'heure, on est dans l'esprit de la nouvelle vague, donc si on veut filmer la jungle, il faut être dans la jungle. Si on veut filmer un fleuve en furie, il faut y aller. Comment est-ce qu'il arrive à trouver, ne serait-ce que des gens pour financer ces folies?
D'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez, ça lui a été proposé, hein, sur Fitzcarraldo, par exemple, de reproduire en maquette le bateau qui doit monter cette pente. Et c'était vraiment une chose sur laquelle il ne démordait pas, c'était qu'il fallait absolument le vivre en vrai. Parce que finalement, c'est dans l'aventure du tournage qu'il va se passer énormément de choses, qu'il va y avoir des images imprévues qui va pouvoir intégrer à son film. Et donc le tournage même de Aguirre, c'est cette équipe de tournage, ces comédiens, ces techniciens, ces figurants, qui vont eux-mêmes s'enfoncer dans la jungle, qui vont eux-mêmes perdre leur... subir la montée du fleuve, qui vont eux-mêmes subir les maladies, qui vont subir... Et donc tout ça va apparaître à l'écran, et donc tout ça va enrichir le film de façon beaucoup...
L'important, c'est que ça se réalise et qu'il le vive, Samuel Blumenfeld.
Oui, et alors quand vous vous demandiez comment Herzog était arrivé à financer ce film, comme d'autres après sont arrivés à faire financer des choses assez improbables, c'est quand même dans les années 70, enfin pas de la fin des années 60, on entre dans un nouveau paradigme, dans le cinéma américain, mais en fait dans le cinéma mondial tout court. Et aux yeux des financiers, tout d'un coup, l'interlocuteur principal devient le metteur en scène. Plus que la star de cinéma. Donc, durant cette parenthèse enchantée de la fin des années 60 jusqu'au tout début des années 80, le pouvoir est désormais entre les mains des metteurs en scène. Et donc, du coup, vu que ce sont les artistes qui, entre guillemets, contrôlent tout et ont ce pouvoir de persuasion, du coup, ont pu éclore des projets improbables, dantesques, mégalomanes, aussi grandiose artistiquement.
Voilà, quand on parlera de Friedkin tout à l'heure, on verra que ça marche tant que ça marche. C'est-à-dire que tant que les spectateurs viennent voir les films, on peut tout faire. Après, ça deviendra un peu plus compliqué. Alors, vous racontez Laura Friedkin dans votre livre. Alors, je ne sais pas à quel point c'est imaginaire ou pas, puisque c'est un roman, n'est-ce pas? Vous mettez un peu le kit de survie de Herzog, qu'il a collecté auprès de diverses personnes qu'il a pu rencontrer. Alors, je vais pas tous les dire, mais il dit par exemple qu'il faut toujours avoir un pistolet chargé sur soi. En cas de morsure venimeuse ou de risque de gangrène, ne pas hésiter à couper sa propre jambe. Au-dessus de 6000 mètres d'altitude, voyager léger. Et enfin, ne pas tourner le dos à un grizzly ou à Klaus Kinski. Et c'est vrai que la rencontre avec Klaus Kinski, de toutes les catastrophes naturelles que vous décrivez dans votre livre, Klaus Kinski est la plus grande.
Oui, alors c'est intéressant parce que c'est un fil conducteur dans la carrière d'Herzog, qu'on retrouve que ce soit dans ses fictions ou dans ses documentaires. De se retrouver toujours face à des gens qui ont vécu des situations extrêmes et où on va se demander mais comment on se sort de ça? Comment on se sort d'une ascension à 8000 mètres d'altitude?
Reinhold Meissner, par exemple.
Voilà, c'est ça. Où son propre frère est décédé. Comment on se sort d'une captivité dans la jungle laotienne? Comment on se sort d'un crash aérien dans la jungle au Pérou? Et donc voilà, c'est aussi une image poétique, voilà, de se figurer que Herzog s'est fait au fil de sa carrière cette liste dans toutes ces situations, l'extrême-là, comment l'être humain peut réagir et comment on peut s'en sortir. Et de façon un peu amusante, ça peut se collecter comme ça.
Donc Klaus Kinski. Klaus Kinski, oui. il le rencontre adolescent. C'est une tornade qui déboule dans sa cuisine.
Voilà, c'est comme un peu la première rencontre très marquante d'un adolescent qui rencontre un comédien qui est déjà une star et qui est déjà une espèce de tornade humaine. Donc il y a toutes sortes d'anecdotes sur les grandes colères de Kinski chez la logeuse dont il partageait l'appartement. Et donc c'est déjà ce personnage incarné dans la réalité que Herzog va avoir envie d'inviter sur ses films, précédé de toute une réputation d'un comédien qui abandonne les tournages en cours de route. Donc ça va être un des grands enjeux du tournage d'Aguirre et de Fitzcarraldo, de ne pas laisser Kinski partir.
Alors quelle est la méthode? La méthode pour l'empêcher de partir, là encore avec Herzog, on ne sait jamais à quel point c'est la légende, mais il l'a longuement raconté. Quand je parlais d'avoir toujours un pistolet chargé sur soi, c'est important quand on est avec Kinski.
Ah ben, en tout cas, la version de Kinski et la version d'Herzog sont en conflit, on peut dire, mais ce qu'il en ressort, c'est que au moins une fois, Herzog donc a menacé Kinski avec une arme, et on peut dire que c'est une sorte de pari, hein, c'est un coup de poker de lui dire, voilà, j'ai tant de balles dans mon arme, la plupart sont pour toi et la dernière sera pour moi. Donc c'est vraiment montrer le jusqu'au boutisme de soit on meurt tous les deux, soit on finit ce film.
Voilà, il a aussi une autre méthode avec Kinski, on l'écoute.
Wenn Sie einen Erregten haben wollen, dann lassen Sie ihn erregt sein. Und sonst sagen Sie, er ist nicht erregt.
Gut, ja, ich kann ja.
Also!
Aber ich möchte nicht zu sehr.
Also drehen wir es jetzt!
Ja, ich möchte nur nicht.
Los, machen Sie die Kamera und drehen den Scheißdreck runter!
Die Kamera dreht jetzt nicht.
Allein das ist ja eine Beleidigung!
Ich gebe hier.
Sie können höchstens zu mir kommen und sagen, Herr Kinski, glauben Sie,
nein,
auch David Lean hat das gemacht und auch Brecht und Sie werden es auch tun, mein Lieber.
Das werde ich nicht tun.
Das werden wir ja sehen.
Das werde ich nicht tun, Herr Kinski.
Das werden wir ja sehen.
Brecht und David Lean gemacht haben, ist mir wurscht.
Vous voulez un énervé? Je m'énerve alors, ne venez pas vous plaindre, dit Kinski. Filmez cette merde, allumez la caméra. Non, on ne tourne pas, répond Herzog. Mais c'est une offense, demandez-moi poliment. Monsieur Kinski, pensez-vous que David Lean l'a fait, et Brecht, et vous allez le faire aussi? Je ne le ferai pas, monsieur Kinski, répond très calmement Werner Herzog. Je me fiche de ce que Brecht et David Lean ont fait. C'est un extrait de Ennemi Intime, le documentaire que Herzog avait consacré à son alter ego, ennemi, amour. C'est des relations très compliquées. C'était en 1998, Herzog disait encore sur ce tournage où le fleuve pouvait monter ou descendre de 15 mètres d'un coup, que c'était un peu sa métaphore, la métaphore de ses relations avec Klaus Kinski, mais ça devient une habitude. Vous le racontez, Laura Freducci, dans votre livre de Herzog. Il laisse Kinski exprimer sa colère, il l'encourage même, il en rajoute pour avoir au bout du compte un Kinski épuisé et que là il va pouvoir filmer, il va être à son meilleur.
Oui, c'est ça. En fait, on peut avoir l'impression que Herzog, sur les tournages, donc, subit un petit peu ces crises de colère qui peuvent durer des heures, suscitent un retard sur les moments de tournage. Et puis d'ailleurs, Kinski s'en prend pas que à Herzog, mais à tous les membres, différents membres de l'équipe, les uns après les autres.
Parfois, il leur tire dessus, parfois, il leur tape sur la tête avec son épée.
Voilà, il s'en est pris à des figurants qui en gardent encore des blessures et des anecdotes à raconter. Mais il subit un petit peu ses colères et en même temps, c'est quelque chose que, voilà, on a découvert après qu'il l'encourage lui-même, qu'il le pousse de façon un peu perverse, on pourrait dire, à aller de plus en plus loin dans l'exaspération, à hurler de plus en plus, mais de façon très calme, et en trouvant la petite formule, en relançant, en étant ce poil à gratter qui va faire monter Kinski dans ses plus grandes fureurs, pour qu'à la fin, il ait ce visage incroyable du conquistador fou qu'on voit à l'écran dans Fitzcarraldo.
Samuel Blumenfeld.
Ce qui est frappant, c'est que souvent au cinéma, les metteurs en scène fonctionnent en couple avec un comédien. On pense comme ça, Don Siegel avec Clint Eastwood, Raoul Walsh avec Errol Flynn, Martin Scorsese avec Robert De Niro. Et ces gens fonctionnent en couple parce que justement, l'habitude de travail l'entente, l'amitié fait que les conditions de tournage seront plus faciles et les choses se dérouleront de manière plus rapide. Là, on a un autre couple quand même, Herzog-Kinski, quand même qui se déploie sur quand même 5 films. Enfin, sur voilà, 5 films. Donc, si vous voulez, c'est pas rien comme collaboration. Mais là, on a l'impression que ce qu'Herzog recherche avec Kinski, ce sont les emmerdes. Et vraiment, on peut dire qu'il les obtient facilement et au carré. Et l'autre chose aussi qui est frappante, c'est que Kinski était comme il est, c'est-à-dire complètement dingue, mais c'est quelqu'un qui a une longue carrière, qui tourne beaucoup, et donc faut croire que lorsqu'il tournait en dehors du giron d'Herzog, les choses se passaient suffisamment bien pour que des metteurs en scène le reprennent ou que d'autres l'embauchent. Mais il faut croire que la mayonnaise Herzog-Kinski prenait des tours absolument paroxystiques, uniques dans l'histoire du cinéma, au point où on se dit, entre tourner en Amérique du Sud et se coltiner Kinski, autant vraiment aller en Amérique du Sud.
Et alors l'idéal, c'est d'avoir les deux en même temps. Et on a le sentiment quand même, quand on vous lit Laura Freducci, quand on voit d'ailleurs aussi l'ennemi intime ou d'autres aspects documentaires sur le travail de Herzog, c'est que Herzog ne peut jamais être satisfait. Il recherche ce que vous appelez cette pura vida, c'est-à-dire cette intensité aiguë de l'existence. Donc il va prendre Kinski, il va essayer de faire grimper ce bateau dans Fitzcarraldo en haut de la colline. Et puis quand le bateau l'a gravi enfin cette colline, il n'en ressent aucune joie. Vous notez dans son qu'il a juste une sorte d'effarement sans fond. Il note dans son journal, bon voilà, on peut juste dire que j'y étais. Alors la logique ultime de Herzog, ça serait quoi? Ça serait d'être Grizzly Man, ça serait d'être Timothy Treadwell, l'homme sur qui il avait fait ce documentaire Grizzly Man, c'est-à-dire de tourner un film et puis de finir littéralement dévoré presque à l'image par son sujet. Quand il va au Piton de la Fournaise, on a toujours le sentiment qu'il voudrait que la caméra filme sa propre mort. Qui serait le stade ultime de son extase de vie. Enfin, c'est très frappant.
On peut imaginer un très beau dernier film d'Herzog sur cette idée-là. Mais oui, pour Fitzcarraldo, je pense que c'est vraiment le projet qui a été vampirique, on pourrait dire, et qui l'a vidé de son énergie, et que du coup, quand il arrive enfin, après toutes ces années, après toutes ces épreuves et toutes ces souffrances, à faire monter ce bateau et à sortir son film, je dirais qu'il a même plus l'énergie pour se réjouir dans le making-of du film. Il dit, mais maintenant, il n'y a plus qu'à m'enfermer, maintenant que j'ai réussi à finir ça.
En fait, vous avez entièrement raison, hein, vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental. Quand un cinéaste se lance dans une telle aventure, c'est en l'occurrence un tournage au long cours sur plusieurs mois, pour ne pas dire plus d'une année, vous n'en ressortez pas vivant. Au mieux, vous en ressortez techniquement vivant, mais artistiquement parlant, vous n'y retournerez pas. Alors, dans le cas d'Herzog, il y a cette chose quand même assez exceptionnelle, c'est qu'il a fait Aguirre, puis un peu plus tard, Fitzcarraldo. Donc, il est allé deux fois. Mais deux fois, véritablement, c'était un maximum. Mais sinon, quand vous regardez bon, Friedkin en République Dominicaine pour Sorcerer, bien évidemment, Coppola aux Philippines pour Apocalypse Now, il n'y a pas eu de ticket retour quoi, pour ce tournage. Ces gens-là ne s'en sont pas remis physiquement, psychologiquement, d'une certaine façon artistiquement. Le prix à payer pour cette aventure, pour cette exploration, est trop élevé. Et en même temps, pour le spectateur, il est très bon marché, parce que ces films-là, nous les avons. Et ce sont de sacrés films.
Caruso
C'était en train de devenir un projet maudit. Si l'on considérait les dépenses qui ne cessaient d'augmenter et le nombre de techniciens que nous avions perdus à cause des maladies ou de l'épuisement, la chose la plus sensée à faire aurait été de concevoir une séquence plus simple. C'était le conseil que tous les cadres m'avaient donné, mais j'étais devenu comme Fitzcarraldo, l'homme qui avait bâti un opéra dans la jungle brésilienne. Je perdais totalement le contrôle de mon obsession, et si je n'avais pas eu tant de succès les années précédentes, on m'aurait donné l'ordre d'arrêter. Aucune personne saine d'esprit n'aurait continué sur cette voie, mais personne n'était sain d'esprit. Celui qui écrit ça dans ses mémoires, ça aurait pu être Herzog. C'est pas Herzog, c'est William Friedkin, d'ailleurs, qui partage un amour de l'opéra avec Werner Herzog. Et si personne n'ose rien lui dire à Friedkin, quand il va aller tourner en République Dominicaine, puis plus tard au Mexique, son Sorcereur, c'est parce qu'il sort, effectivement, comme il le dit, de deux énormes succès assez inattendus, French Connection et L'Exorciste. Et à ce moment-là, à Hollywood, c'est le roi du pétrole.
Ah, complètement. C'est le metteur en scène le mieux payé à Hollywood. Donc ce qui veut donc dire vraiment qu'il est tout en haut de la pyramide. Et puis surtout, non seulement il a signé deux énormes succès commerciaux avec French Connection et L'Exorciste, donc dans la première moitié des années 70, mais ce sont aussi deux énormes réussites artistiques. Donc Friedkin synthétise et symbolise en fait tout ce qu'est le nouvel Hollywood, si vous voulez. C'est à la fois une génération de metteurs en scène qui offre des films qui touchent le public, mais aussi des films qui sont artistiquement de grandes réussites.
Et parce qu'il a senti, l'air du temps, donc tout le monde lui fait confiance. Et quand il dit je vais aller faire une nouvelle adaptation du roman de Georges Arnaud, Le Salaire de la Peur, et on va aller le tourner non pas en décor ou dans une pseudo Amérique du Sud comme Clouseau l'avait fait en Camargue, on va y aller et tout le monde le suit.
Absolument. Il peut faire absolument ce qu'il veut puisque les metteurs en scène sont les rois durant cette décennie et fort de ses succès, il peut imposer n'importe quelle ambition. N'oublions pas non plus que dans l'Exorciste, vous aviez ce fameux prologue en Irak, prologue d'ailleurs extrêmement réussi. Bon, aller en Irak à l'époque, bon, aujourd'hui c'est comme toujours aussi compliqué, mais aller en Irak à l'époque était déjà compliqué.
À Mossoul,
à un moment où les relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Irak étaient pour le moins flasques, et donc véritablement, Friedkin y était allé en partie en contrebande et avait déjà filmé là où pas grand monde n'avait filmé. Donc le pli était pris. Mais bon, là où il y avait un prologue, on s'est retrouvé avec un film en entier, et avec des camions, alors que là, bon, on a juste un individu qui pratique un exorcisme quelque part en Irak.
Alors, tant qu'à faire, on va essayer de faire un peu plus compliqué. Et alors, Friedkin profite de ce pouvoir qu'il a pour faire un peu le même hold-up que Coppola va faire avec Le Parrain, c'est-à-dire qu'on va affecter de faire un film d'aventure ou un film policier, et on va faire financer par une multinationale américaine un film qui dénonce férocement l'impérialisme américain.
Ah oui, absolument. Ça aussi, c'est emblématique de la complexité et des délits de cette décennie. C'est que si vous voulez, ce film est financé donc cofinancé par Paramount. Le patron de Paramount est quelqu'un qui s'appelle Charles Bludorn, et Charles Bludorn est le patron de Gulf and Western. Et donc
il faut expliquer ce qu'est Gulf and Western
est qui n'existe plus aujourd'hui. Une multinationale qui se diversifie dans, on va dire, dans 70 secteurs de l'économie. Donc, si vous voulez, c'est la pieuvre tentaculaire symbole de l'impérialisme américain et de sa puissance économique. Et entre autres choses, Gulf and Western est de facto propriétaire de la République dominicaine. C'est-à-dire que donc, elle est au minimum un partenaire privilégié de la junte militaire qui est au pouvoir là-bas. Et donc, Charles Bludorn dit à Friedkin, bon, bah, je suis propriétaire de la République dominicaine, viens tourner là-bas, c'est chez moi. Et donc, Friedkin donc a tourné là-bas, en République dominicaine, dans des conditions absolument dantesques.
Oui, parce que la République dominicaine, on essaye de vendre un peu une sorte de paradis touristique. Friedkin lui-même écrit, quand il essaye de convaincre Mastroianni de venir tourner, mais viens avec ta femme, avec Catherine Deneuve, tu verras, c'est vraiment un paradis, c'est très tranquille comme coin.
Alors, c'est très tranquille quand vous allez à Punta Cana. Donc, tant que vous restez à Punta Cana, d'ailleurs, où Charles Bludorn avait une résidence avec d'autres milliardaires, ça va. Sauf que vous tournez pas Sorcerer à Punta Cana, vous allez dans la jungle. Et donc, dès que vous allez dans la jungle, dans un territoire qui est un tout petit peu reculé, dans des villages qui suintent la misère, bah, c'est une toute autre affaire. Toute autre affaire parce que vous devez composer avec la junte militaire là-bas, avec les militaires, avec la police, parce que vous n'avez pas de sécurité possible sans eux. Donc là, ce sont des négociations pour le moins périlleuses, au moins aussi périlleuses que le climat et que le climat et la nature. Et donc, pour revenir donc avec au début de votre question, il se passe que donc Friedkin a tourné donc dans ce territoire privilégié de Gulf and Western, un film qui dénonce la mainmise des multinationales dans les pays d'Amérique du Sud. C'est seulement possible durant cette période. Ça n'a pas été fait avant et personne ne l'a refait après.
Calva. Excellent wood.
We're going to go around it. If we can hack out 8 trees.
If you cut them down, how do you move them?
A winch. How are you going to clear the stumps? How are you going to drive through a swamp?
We're going to go through it.
Impossible.
Impossible!
I think I can clear it.
C'est un film assez laconique hein, que Sorcerer. Par contre, la bande-son est extraordinaire. On l'entend ici, on l'entendra peut-être encore tout à l'heure. C'est un moment où les quatre hommes qui doivent convoyer ces bouteilles de nitroglycérine pour faire sauter le puits de pétrole en feu sont coincés par un arbre sur la route. Les quatre hommes, c'est Roy Scheider, Francisco Ramal, Bruno Kremer et Amidou. Et puis, il y a cet arbre. On se dit, il n'y a pas de problème, on va le faire sauter. Sauf que, et c'est là que, comme tous les grands films, le film raconte l'histoire même de son tournage. Pendant le tournage, on essaye de faire sauter l'arbre. Ça fait pchit, sauf que le commanditaire, Charles Bluedorn, est là. Il est venu voir le chenille, comme l'appelle William Friedkin, et il repart un peu contrarié.
Absolument, parce que bon, Bluedorn est arrivé, enfin surtout, il faut imaginer la scène, il est arrivé accompagné de deux ou trois blondes plantureuses pour leur dire à qui il avait vendu. Je vous emmène sur un tournage. D'abord, on va à Punta Cana rigoler un peu. Ensuite, je vous emmène sur un tournage. Vous allez voir, c'est le réalisateur de l'Exorciste. Lui, il a toujours tout bon. Il sait tout bien faire. Ça va vraiment être, ça va être réglé comme sur du papier à musique. Et donc, bien évidemment, il arrive le jour de l'explosion. Et au moment où l'arbre doit sauter, ça fait pchit. Vraiment. C'est-à-dire que si vous voulez, il ne se passe rien. Donc, si vous voulez, Bluedorn arrive en disant « Regardez le génie », et en fait, il repart en se disant « Qu'est-ce que c'est que ce crétin qui est aux manettes, qui est en train de dépenser des sommes absurdes? Ce tournage ne va nulle part. Qu'est-ce qui arrive ?» C'était en fait déjà le début de la fin.
Alors, vous racontez justement cette capacité étonnante de Friedkin à s'aliéner tous ses commanditaires et en même temps à garder son obsession. Et ce qui est très intéressant dans votre livre, parce que ça a été raconté déjà, ces histoires, par Friedkin lui-même. Lui-même, ça a été devenu presque une légende dans le livre de Peter Biskind, où faisant quasiment le procès du nouvel Hollywood, il explique, regardez, ils sont bien punis de leur mégalomanie et de leur démesure. Vous êtes allé rencontrer tous les collaborateurs qui ont participé à ce tournage, et il décrit Friedkin quasiment comme Jésus-Christ, quelqu'un qui a une haute vision comme ça, personne ne peut le toucher, mais qui en même temps est dans sa bulle en permanence.
Alors, il est à la fois dans sa bulle, parce que c'était indispensable, parce que vous devez terminer ce tournage. Il s'agit d'en assurer le fonctionnement parce que votre responsabilité est considérable. Donc on a affaire à un grand professionnel qui se conduit en grand professionnel, et ce professionnalisme ne s'exprime que justement parce que ce comportement, dirons-nous, un peu autiste au sens où seule la finition de votre film importe. Maintenant, vous avez aussi un Friedkin qui avait un don d'ubiquité, enfin, selon tous les témoins que j'ai pu interroger, c'est-à-dire beaucoup de monde, voire une bonne dizaine de personnes, il savait exactement tout ce qui se passait sur le tournage, je veux dire, à tous les postes. Il était véritablement omniscient, ou du moins, s'il ne l'était pas, il donnait ce sentiment. Maintenant, au-delà de ça, quand on parle, quand il y a cette idée, en fait, un peu injuste, est devenue une vérité établie, qui est que les metteurs en scène du Nouvel Hollywood, Friedkin, Coppola, Scorsese, ont eu d'énormes succès dans la première moitié des années 70 et se sont ensuite conduits dans des enfants, comme des enfants gâtés, justement, en se lançant dans des tournages au long cours.
C'est la thèse de Peter Biskind, voilà, dans son livre sur le Nouvel Hollywood.
Cette thèse-là, en fait, elle est sur un plan romanesque très séduisante, parce que bon, bah, c'est l'idée d'Icare, voilà, ils se sont brûlés les ailes, et voilà, et c'est toujours la même histoire. Cette thèse-là, fort romantique, ne résiste pas à l'examen des faits et des témoignages et même au dépouillement des archives. C'est-à-dire que ce soit au moins Friedkin sur Sorcerer ou Coppola sur Apocalypse Now, se sont conduits de manière extrêmement responsable. Ils ont simplement été submergés par des conditions extraordinairement difficile, mais ils se sont conduits de manière extrêmement responsable et professionnelle. C'est tout le contraire de ce que peut raconter Biskind. En aucun cas, ces gens-là n'ont perdu la tête. Les circonstances les ont placés dans des conditions extrêmes et dans des situations extrêmes, mais on n'avait pas affaire à des enfants gâtés qui faisaient n'importe quoi avec l'argent de leur commanditaire. Absolument pas. C'est faux.
D'autant qu'il faut une certaine maîtrise de soi et une obstination pour obtenir ce genre de séquence.
It's the wrong road. This is the wrong road!
Qu'est-ce qu'on entend là, Samuel Blumenfeld?
C'est la fameuse scène du pont. En fait, qui est dupliqué deux fois, puisqu'en fait, on a deux camions, donc on la voit deux fois. C'est la scène, ce sont les deux scènes les plus emblématiques du film. Elles sont absolument paroxystiques, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, vous avez ces camions chargés de nitroglycérine qui franchissent un pont suspendu au-dessus d'un fleuve.
En crue, il
pleut. Au moindre pet, ce camion peut exploser et donc ses chauffeurs avec. On n'a jamais vu ça au cinéma.
Because I can't do it alone.
Vous écrivez dans votre livre, Samuel Blumenfeld, Sorcereur, le toit du monde, que, au-delà du tour de force de cette séquence, c'est la figure friedkinienne par excellence qu'on voit là, et c'est sans doute pourquoi c'est le chef-d'œuvre de Friedkin, et en tout cas son film préféré.
On le ressent peut-être mieux en simplement, sans les images, juste avec le son. On mesure bien à quel point le danger encouru par les personnages dans le film, dans l'histoire du film, en fait, est en exact parallèle avec celui encouru par l'équipe du film, son metteur en scène en tête, dans le tournage de cette séquence. On voit bien que c'est tellement paroxystique, si extrême, que tourner cette scène signifie qu'en fait qu'on n'en tournera peut-être plus jamais d'autres derrière, parce que la vie de cette équipe, la survie physique de cette équipe est en jeu. C'est ça qui se passe. Donc si vous voulez, on comprend facilement pourquoi Friedkin aime ce film, c'est son film préféré, et pourquoi en fait il mesure parfaitement le tour de force accompli par cette séquence, parce que tout simplement, aucun autre cinéaste ne pourra aller plus loin que cela. si vous voulez, c'est à un détail près, si vous voulez, bah, tout le monde meurt là-dessus. C'est fini.
Et de fait, la sortie du film, on connaît l'histoire, le film sort une semaine ou deux après la guerre des étoiles, donc tout le monde va voir la guerre des étoiles et on ne va pas voir Sorcerer, et c'est aussi l'apparition des effets spéciaux qui vont se développer avec le numérique, c'est-à-dire que ce genre de séquence maintenant serait entièrement faite sur fond vert, et l'enjeu ne serait évidemment plus le même.
Oui, il y a deux choses, effectivement. La première, c'est que au moment où le film sort, peu après La Guerre des Étoiles, faut pas oublier que lorsque sort La Guerre des Étoiles, personne n'attend ce film. La Fox, donc, qui l'a produit et qui le distribue, pense pas que ce sera un grand succès. Enfin, véritablement, tout le monde se dit qu'est-ce que c'est que cette connerie et qui va s'intéresser à cela.
Cette série B de un peu Z parfois de science-fiction. Quoi.
On va dire ça pour rester poli. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a véritablement, quand arrive Sorcerer, on est à comme dit Friedkin, quoi, un changement dans la Zeitgeist. Le spectateur américain n'est plus capable d'encaisser, comme peu de temps auparavant, d'ailleurs, des personnages aussi complexes que Sorcerer, c'est que les quatre personnages de Sorcerer sont des salauds qui essayent de sauver leur vie. Et donc ça, cette complexité, le spectateur américain n'est plus capable de l'encaisser. Maintenant, le film, effectivement, arrive à un moment, avant l'ère du numérique, l'ère du numérique signifie que, bon, bah, c'est fini, qu'on ne va plus aller dans la jungle, hein, je veux dire, on reconstitue tout par ordinateur, c'est fini, on ne sort plus de chez soi, quoi. C'est fini le cinéaste explorateur, quoi. Désormais, en fait, l'argent dépensé, il est chez des informaticiens devant leur ordinateur. Voilà. Fin du cinéma lumière.
Merci Samuel Blumenfeld, on se quitte sur la musique très Friedkinienne de Tangerine Dream, même si on n'entend pas trop celle-là dans Sorcerer, mais elle apparaît dans la bande originale officielle de Sorcerer. Sorcerer sur le toit du monde, votre livre est édité par la Rabia, et puis pour en savoir plus sur William Friedkin, avant et après ce tournage maudit, Friedkin Connection, les mémoires d'un cinéaste de légende, c'est chez Point Seuil en poche, et significativement, il n'y a aucune image de Sorcerer sur la couverture de ce livre. Merci aussi Laura Freducci, Werner et les catastrophes naturelles, c'est publié aux éditions Anne Carrière, et puis là encore, pour en savoir plus, on recommandera Werner Herzog, Pas à pas, d'Hervé Aubron, Emmanuel Burdeau aux éditions Capricci, édition Capricci qui publie également un entretien des auteurs avec le cinéaste allemand Manuel de survie et un texte d'Herzog lui-même, Conquête de l'inutile, ce qui veut tout dire. Après toutes ces célébrations du despotisme éclairé de cinéastes mégalomanes, il est temps avec Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm, de remettre un peu de vertu dans cette émission.
Dans l'huile là-dedans.
Ouais, mec, la chasse bien.
Poilu, poilu.
Ça va pas, non? Débrouillez-vous entre vous.
Est-ce que c'est la lape avec Gouina? Elle va donc.
Remonte pas! Remonte pas! Mais qu'est-ce que tu fous?
Bah, je me suis mélangée, ma vieille. J'avais subitement oublié que les choses avaient déménagé.
What happens?
Il est bon celui-là.
Ça dépend des goûts. Vous avez une spécialité?
Oh, vous avez l'habitude.
Quoi, l'aventure, les couleurs, le mouvement, l'action échevelée?
Bon, écoutez.
Parce qu'ici, vous savez, c'est pas autant n'importe le vent, hein.
Clown ou génie point d'interrogation, ce film met en couverture de son numéro de juin celui qui, pour Werner Herzog, avait incarné un bad lieutenant New Orleans et dont il fut question qu'il joue le rôle-titre d'une version série télé supervisée par William Friedkin lui-même de son Killer Joe. C'est Nicolas Cage. Pourquoi il en fait trop? Mais ce n'est pas de lui que vous allez nous parler, Fernando Ganzo, alors que sont sortis mercredi dernier non pas un, mais deux films réalisés par l'infatigable Paul Vecchiali, Les Sept Déserteurs ou La Guerre en Vrac d'un côté et Train de vie ou Les voyages d'Angélique de l'autre. On verra le 13 juin prochain ressortir en salle et en version restaurée trois des films qu'il avait produits lors de l'aventure Diagonale. Parmi ceux-ci, celui dont on a entendu un extrait dans le hall de ce cinéma spécialisé, on dira, où on projette des films qui ne sont pas exactement autant En emporte le vent, c'est Simone Barbès ou La Vertu, un film réalisé par Marie-Claude Treillou en 1980, Fernando Ganzo.
Tout à fait. Dans le prochain numéro de ce film, donc, on va vous inviter à vous rendre rue de la Gaîté, dans le quartier Montparnasse, et traverser les portes d'un cinéma pornographique, le Ciné Vogue, un soir d'été 1979, donc à peu près même période que Sorcerer. C'est là que Marie-Claude Treillou est en train de tourner son premier film, Simone Barbès ou La Vertu, une galerie des types étonnants, poli ou impoli, timide ou souriant, rentre et sort de la salle et discute avec les deux ouvreuses qui se disputent, se réconcilient, mangent un sandwich. Elle ne le sait pas encore, mais l'air de rien, Marie-Claude Treillou est sur le point d'enregistrer les basculements d'une époque, des désillusions encore douloureuses des années 70, à cet état comateux et erratique des nuits des années 80. Ce cinéma porno, la Toulousaine Treillou le connaît très bien. C'est ici qu'elle travaille la nuit, comme ouvreuse. Pendant que les jours, elle finit sa licence de philo et commence à écrire dans Art Press et la revue Cinéma, où elle rencontre Gérard Frocoutaz, qui l'encourage à écrire un scénario et le soumettre à Paul Vecchiali, qui vient en effet de fonder la société des productions Diagonales. Elle va s'inspirer de sa vie nocturne à sa rencontre et soumet le script de Simone Barbès ou La Vertu à Vecchiali qui dit « trouver ça à chier ». Mais plus tard, il se rendra compte d'à quel point il avait tort. Le film est magnifique. Du scénario, je n'avais reçu que le verbiage. Je n'avais pas pressenti quel cinéma il y avait derrière. Car ce cinéma de Treillou est inséparable des acteurs qui vont l'incarner, dont notamment Simone, jouée par la collègue du cinéma porno de Treillou, Ingrid Bourgoin, que la cinéaste décrit ainsi. J'étais très admiratif de sa vertu, de cette tenue quand on est entouré de gouffres et qu'on persiste à avoir une certaine élégance, fantaisie, dignité, même dans les sentiments les plus noirs. Avec elle et avec tous les défilés des personnages du film, ce que veut montrer Treillou, c'est ce peuple qui avait disparu du cinéma depuis les années 50. Elisabeth Lebovici, future journaliste à Libération et qui joue dans les films, précise « Marie-Claude a réussi à faire venir et tenir ensemble tout son environnement, créant une sorte de Warhol au féminin. Elle avait davantage été touchée par le monde de la rue, de la gouaille, des classes moyennes. Elle n'était pas encore au PC, mais déjà très politisée, avec une volonté de destruction d'un certain cinéma, y compris celui de la nouvelle vague. » La deuxième partie du film nous transporte du cinéma porno à une boîte lesbienne, le Monocle, où ça va rester très théâtral, parce que comme développe Treillou, ça devient un assemblage de toutes sortes de circonstances vécues, mais avec une véritable pensée de la société du spectacle, de tous ces chamboulements des rôles féminins, masculins, de ces prises de pouvoir par les femmes, même si ce sont elles qui ouvrent les portes de l'enfer.
Bon, où allons-nous?
Je vous l'ai déjà dit. Au bout du monde. Oh. Faut pas m'en vouloir. Mais vous aussi, hein, vous cherchez toujours les difficultés. Vous connaissez aussi bien que moi les endroits où on peut trouver quelque chose, non? Qu'est-ce que c'est comme marque?
Volvo. Volvo. Ah. Maintenant, vous devez bien faire l'amour, vous, je me trompe.
Oh, vous avez l'œil, c'est juste, divinement. Mais alors, très, 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 très bien. Vous n'avez jamais entendu pareil cri. Et des gestes, des mots, toutes les acrobaties. tous les excès. Toutes les fantaisies, c'est moi. Or, vous savez, cher monsieur, comme je suis triste. Et vous, vous vous débrouillez?
Ah, moi? Bon, ben...
Vous venez de l'entendre, nous sommes à l'intérieur d'une voiture dans laquelle Simone nous amène au troisième et dernier volet du film, une longue traversée nocturne dans la Volvo d'un homme très élégant, interprété par Michel Delahaye, ancien critique, désormais acteur pour Godard, Eustache, Jean Rollin, et qui trouve ici son rôle le plus marquant. La raison est simple, le personnage de Delahaye, pour moi, c'est Marie-Claude, nous confie Noël Simsolo. Derrière son rire, elle avait ce pathétique d'un personnage perdu qui va jusqu'au bout sans savoir ni comment ni pourquoi. Pour trouver la voiture où tourner cette séquence, Vecchiali propose une Renault qu'il peut obtenir gratuitement. Mais Trio insiste et insiste pour avoir une Volvo. Vecchiali se dit « il y a un secret » et en effet, il y a un secret autobiographique. « J'avais fait beaucoup de stops », confie Marie-Claude Trio à Gaël Lépingle pour les pages de ce film. « Je ne sais pas comment j'échappais à la mort à plusieurs reprises. Une fois, la nuit, en pleine campagne, je suis tombé sur un type qui avait une Volvo. Il m'a demandé si je voulais conduire. J'ai répondu que je n'avais pas le permis. Il me passe quand même le volant et je me mets à conduire à 160 km à l'heure. J'avais une conduite tellement incroyable que je n'étais plus sexué. J'étais protégé. Alors, après, j'étais obsédé. Je voulais une Volvo. » Et dans cette Volvo, on va se rendre vers les premières lumières de l'aube sur les quais du canal de l'Ourcq. Ingrid Bourgoin, Simone Barbès, celle qui nous a fait vivre cette traversée, se souvient de cette sensation dès la fin de la nuit, dès la fin du film. Ils vont s'évanouir quand le jour va se lever. C'est bien qu'on est irréel. C'était un beau conte de fées. Ces personnages qui parlent de la nuit, qui sont comme des corrigans, des elfes, des vampires, et quand le jour se lève, il n'y a plus personne. Pourtant, leurs fantômes ne nous ont pas quittés.
La tendresse, je rêve de connaître un jour le secret d'étranges caresses. Si je rencontrais cet amour, je me glisserais de ses promesses. S'il ne devait durer toujours, je rêve d'un étrange amour.
Merci Fernando Ganzo. Simone Barbès sous la vertu de Marie-Claude Treillou, c'est en salle et en version restaurée à partir du 13 juin avec deux autres productions diagonales excellentes également, Les Belles Manières de Jean-Claude Guiguet et Beau Temps mais Orageux en fin de journée de Gérard Frocoutaz, un titre de circonstance ces jours-ci. Quant au nouveau numéro de ce film, il sera en kiosque mercredi prochain. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, YouTube Diego Ac Lopez. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, plan large sur les frères Taviani à l'occasion de la sortie de leur nouveau film Una Questione Privata. Mercredi prochain également, retour sur plus de 60 ans d'une œuvre à deux têtes mais un seul cinéaste. Œuvre tristement interrompue par le décès de Vittorio Taviani le 15 avril dernier. Nous nous entretiendrons longuement avec Paolo Taviani. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko.